sur Radio Capucin 94.5 FM en compagnie de
Asia,
Assetou,
Yosra
et moi-même Imen.
Aujourd'hui, notre émission sera sur le thème de Maupassant. Asia et Assetou feront la lecture dans les deux premières parties et nous terminerons en troisième partie par...
Par un débat.
En attendant, on vous laisse avec
Andalouse de Kenji Girac.
Vous êtes toujours sur Radio Capucin 94.5 FM avec
Imen,
Asia,
Assetou
et moi-même Yosra. Donc on va vous laisser avec Asia.
Je vais lire Auchan du livre Le papa de Simon et autres nouvelles de Maupassant. Les deux chaumières étaient côte à côte, au pied d'une colline, proche d'une ville de bains. Les deux paysans besognaient dur sur la terre inféconde pour élever tous leurs petits. Chaque ménage en avait quatre. Devant les portes voisines, toute la marmaille grouillait du matin au soir. Les deux aînés avaient 6 ans et les deux cadets 15 mois environ. Les mariages et ensuite les naissances s'étaient produits à peu près simultanément dans l'une et l'autre maison. Les deux mères distinguaient à peine leurs produits dans le tas. Et les deux pères confondaient tout à fait. Les 8 noms dansaient dans leur tête, se mêlaient sans cesse. Et quand il fallait en appeler un, les hommes souvent criaient 3 avant d'arriver au véritable. La première des deux demeures, en venant de la station d'eau de Rolleport, était occupée par les Tuvaches qui avaient 3 filles et 1 garçon. L'autre masure abritait les Valins qui avaient 1 fille et 3 garçons. Tout cela vivait péniblement de soupe, de pommes de terre et de grand-terre. À 7 heures le matin, puis à midi, puis à 6 heures le soir, les ménagères réunissaient leurs mioches pour donner la pâtée, comme des gardeurs d'oie, assemblant leurs bêtes. Les enfants étaient assis par rang d'âge devant la table en bois, vernie par 50 ans d'usage. Le dernier moutard avait à peine la bouche au niveau de la planche. On posait devant eux l'assiette creuse pleine de pain molli dans de l'eau où avaient cuit les pommes de terre, 1 demi-chou et 3 oignons. Et toute la ligne mangeait jusqu'à plus faim. La mère empâtait elle-même le petit. Un peu de viande au pot-au-feu le dimanche était une fête pour tous, et le père ce jour-là s'attardait au repas en répétant « Je m'y ferai bien tous les jours ». Par un après-midi du mois d'août, une légère voiture s'arrêta brusquement devant les deux chaumières, et une jeune femme qui conduisait elle-même dit au monsieur assis à côté d'elle « Oh, regarde Henri, ce tas d'enfants, sont-ils jolis, comme ça, à grouiller dans la poussière ?» L'homme ne répondit rien, accoutumé à ses admirations qui étaient une douleur et presque un reproche pour lui. La jeune femme reprit « Il faut que je les embrasse. Oh, comme je voudrais en avoir un, celui-là, le tout petit. » En sautant de la voiture, elle courut aux enfants, prit un des deux derniers, celui des tuvaches, et l'enlevant dans ses bras, elle le baisa passionnément sur ses joues sales, sur ses cheveux blonds frisés et pommadés de terre, sur ses menottes qui l'agitaient pour se débarrasser des caresses ennuyeuses. Puis elle remonta dans sa voiture et partit au grand trot. Mais elle revint la semaine suivante, s'assit elle-même par terre, prit le moutard dans ses bras, le bourra de gâteau, donna des bonbons à tous les autres et joua avec eux comme une gamine, tandis que son mari attendait patiemment dans la frêle voiture. Elle revint encore, fit connaissance avec les parents, reparut tous les jours, des poches pleines de friandises et de sous. Elle s'appelait Madame Henri Dubière. Un matin, en arrivant, son mari descendit avec elle, et sans s'arrêter aux mioches qui la connaissaient bien maintenant, elle pénétra dans la demeure des paysans. Il était là en train de fendre du bois pour la soupe. Ils se redressèrent, tout surpris, donnèrent les chaises et attendirent. Alors la jeune femme, d'une voix entrecoupée, tremblante, commença. « Mes braves gens, je viens vous trouver parce que je voudrais bien emmener avec moi votre petit garçon. » Les campagnards, stupéfaits dans cette idée, ne répondirent pas. Elle reprit haleine et continua. « Nous n'avons pas d'enfants. Nous sommes seuls. Mon mari et moi, nous le garderions. Voulez-vous ? » La paysanne commença à comprendre. Elle demanda. « Voulez-vous prendre Charlot ? Ah bah non, pour sûr. » Alors Madame Dubière intervint. Monsieur Dubière intervint. « Ma femme s'est mal expliquée. Nous voulons l'adopter, mais il reviendrait vous voir. S'il tourne bien, comme tout porte à le croire, il sera notre héritier. Si nous avions par hasard des enfants, il partagerait également avec eux. Mais s'il ne répondait pas à nos soins, nous lui donnerions à sa majorité une somme de 20 000 francs qui sera immédiatement déposée en son nom chez un notaire. Comme on a aussi pensé à vous, on vous servira jusqu'à votre mort une rente de 100 francs par mois. Avez-vous bien compris ? La fermière s'était levée toute furieuse. Vous voulez que nous vendions Charlot ? Ah mais non, c'est pas des choses qu'on demande à une mère, ça. Ah mais non, ce serait une abomination. L'homme ne disait rien, grave et réfléchi, mais il approuvait sa femme d'un mouvement continu de la tête. Madame Dubière, éperdue, se mit à pleurer, et se tournant vers son mari avec une voix pleine de sanglots, une voix d'enfant dont tous les désirs ordinaires sont satisfaits, elle balbutia. Ils ne veulent pas, Henri, ils ne veulent pas ! Alors ils firent une dernière tentative. « Mais, mes amis, songez à l'avenir de votre enfant, à son bonheur, à... » La paysanne exaspérée lui coupa la parole. « C'est tout vu, c'est tout entendu, c'est tout réfléchi. Allez-vous-en, et puis que je vous revois point par ici. C'est-il permis de vouloir prendre un enfant comme ça ?» Alors Madame Dubière, en sortant, s'avisa qu'ils étaient deux tout petits, et elle demanda à travers ses larmes, avec une ténacité de femme volontaire et gâtée, qui ne veut jamais attendre. « Mais l'autre petit n'est pas à vous ?» Le père Tuvache répondit. « Non, c'est au voisin. Vous pouvez y aller si vous voulez. » Et il rentra dans sa maison, où retentissait la voix indignée de sa femme. Les Valins étaient à table, en train de manger avec lenteur des tranches de pain qu'ils frottaient parcimonieusement, avec un peu de beurre piqué au couteau, dans une assiette entre deux. Madame Dubière recommença sa proposition, mais avec plus d'insinuation, de précaution oratoire, d'astuce.
Alors, nous allons vous laisser avec Coco, de Haute Génésie, et on se retrouve après pour que Assez Tout fasse sa lecture.
Cholo, my nigga, 'cause he got it for the lolo. snitching, I go loco. Hit you with that 38. Niggas thinking that I'm solo. 50 deep, they like, oh no.
No, 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 please, no.
Heard the fans taking photos. I know nothing, fuck the popo. Bacon soda, I got bacon soda. Bacon soda, I got bacon soda. Whip it through the glass, nigga. I'm blowing money fast, nigga. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I got it for the lolo. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I got it for the lolo.
Turn up.
I'm in love with the coco. 36, that's a kilo.
I get.
Need a brick, miss my free throw.
Then wait.
I'm in love just like Neo. Bustin' shots, now he Neo.
Metric.
Free my homies, fuck the CEO.
Puto.
Fuck the judge, fuck my P.O.
Puto.
All this talk like I'm Nina. Water whip like I'm Nemo. Bacon soda, I got bacon soda. Bacon soda, I got bacon soda. Whip it through the glass, nigga. I'm blowing money fast, nigga. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I got it for the lolo. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I got it for the lolo.
Turn up.
I'm in love with the coco.
Bon, on va vous laisser avec assez tout pour la suite de l'histoire.
Les deux gruants hochaient la tête en signe de refus. Mais quand ils apprirent qu'ils auraient 100 francs par mois, ils se considérèrent, se consultant de l'œil, très ébranlés. Ils gardèrent longtemps le silence, torturés, hésitants. La femme demanda enfin. « Qu'est-t'en dit l'homme ?» Il prononça d'un ton sentencieux. « Je dis que c'est point misérable. » Alors, Madame Dubière, qui tremblait d'angoisse, leur parla de l'avenir du petit, de son bonheur et de tout l'argent qu'il pourrait leur donner plus tard. Le paysan demanda, « Cette rente de 1200 francs, ce sera promis devant le notaire ?» Madame Dubier répondit, « Mais certainement, dès demain. » L'infirmière qui méditait reprit, « 100 francs par mois, c'est point suffisant. Pour nous priver du petit, ça travaillera que quelques ans, Stéphane. Il nous faut 120 francs. » Madame Dubière, trépignant d'impatience, les accorda tout de suite. Et comme elle voulait enlever l'enfant, elle donna 100 francs en cadeau pendant que son mari faisait un écrit. Le maire et un voisin appelés aussitôt servirent de témoins, complaisants. Et la jeune femme, radieuse, emportant le marmot hurlant comme on emporte un bibelot désiré d'un magasin. Les tuvaches sur leur porte les regardaient partir, muets, sévères, regrettant peut-être leur refus. On n'entendit plus du tout parler du petit Jean Valin. Les parents, chaque mois, allaient toucher leurs 120 francs chez le notaire. Et ils étaient fâchés avec leurs voisins parce que la mère tuvache les agonissait d'ignominie, répétant sans cesse de porte en porte qu'il fallait être dénaturé pour vendre son enfant, que c'était une horreur, une saleté, une corromperie. Et parfois, elle prenait en son bras son Charlot, avec ostentation, lui criant comme s'il y put, y compris, « Je t'ai pas vendu, mais je t'ai pas vendu, mon ptio. Je vends pas mes enfants, mais je suis pas riche, mais je vends pas mes enfants. » Et pendant des années et encore des années, ce fut ainsi chaque jour. Chaque jour, des allusions grossières qui étaient vociférées devant la porte, de façon à entrer dans la maison voisine. La mère Tuvache avait fini par se croire supérieure à toute la contrée parce qu'elle n'avait pas vendu Charlot. Et ceux qui parlaient d'elle disaient, je sens bien que c'était engageant, c'est elle, elle s'est conduite comme une bonne mère. On l'a citée, et Charlot qui prenait 18 ans, élevé dans cette idée qu'on lui répétait sans répit, se jugeait lui-même supérieur à ses camarades, parce qu'on ne l'avait pas vendu. Les Valens vivotaient leur S grâce à la pension. La fureur inapaisable des Tuvaches restés misérables venait de là. Leur fils aîné partit au service, le second mourut. Charlot resta seul à peiner avec le vieil père pour nourrir la mère et deux autres cadettes qu'il avait. Il prenait 21 ans, quand un matin une brillante voiture s'arrêta devant les deux chaumières. Un jeune monsieur, avec une chaîne de montre, descendit, donnant la main à une vieille dame en cheveux blancs. La vieille dame lui dit « C'est là mon enfant, à la seconde maison. » Et il entra chez lui. Il entra comme chez lui dans la masure des Valens. La vieille mère lavait ses tabliers, le père infirme sommeillait près de l'âtre. Tous deux levèrent la tête et le jeune homme dit « Bonjour papa, bonjour maman ». Ils se redressèrent, effarés. La paysanne laissa tomber des mois son savon dans son eau et balbutia « C'est-il mon enfant ? C'est-il mon enfant ?» Il la prit dans ses bras et l'embrassa en répétant « Bonjour maman ». Tandis que le vieux tout tremblant disait de son calme qu'il ne perdait jamais. « T'es v'là-t-il revenu, Jean ?» Et comme s'il avait vu un mois auparavant. Et quand il se fut reconnu, les parents voulurent de tout de suite le fieux dans le pays pour le montrer. On le conduisait chez le maire, chez l'adjoint, chez le curé, chez l'instituteur. Charlot, debout sur le seuil de sa chaumière, le regardait passer. Le soir au souper, il dit au vieux « Faut-il que vous ayez saut pour laisser prendre le petit au Valens ?» Sa mère répondit obstinément « Je voulais un poids à vendre notre enfant. » Le père ne disait rien. Le fils reprit « C'est-il pas malheureux d'être sacrifié comme ça ?» Alors le père Tuvache articula d'un ton de colère « Vas-tu nous reprocher de t'avoir gardé ?» Et le jeune homme brutalement « Oui, je vous le reproche, que vous n'êtes des niants. Des parents comme vous, ça ne fait le malheur des enfants. Que vous le méritez que je vous quitte. » La bonne femme pleurait dans son assiette. Elle gémit tout en avalant des cuillères de soupe dont elle répandait la moitié. « Tuez-vous donc pour élever des enfants ?» Alors le gars rudement. « J'aimerais mieux n'être point né que d'être ce que je suis. Quand j'ai vu l'autre, tantôt, mon sang n'a fait qu'un tour, je me suis dit, voilà que je serais mieux maintenant. » Il se leva. « Tenez, je sens bien que je ferais mieux de ne pas rester ici parce que je vous le reprocherai du matin au soir et que je vous ferai la misère. Ça, vous voyez, je vous le pardonnerai jamais. » Les deux vieux se taisaient, atterrés, l'harmonion. Il reprit. « Non, cette idée-là, ce serait trop dur. J'aime mieux m'en aller chercher ma vie autre part. » Il ouvrit la porte. Un bruit de voix entra. Les Valens festoyaient avec l'enfant revenu. Alors Charlot tapa du pied et se retrouva. Tournant vers ses parents et cria « Manon, va !» Et il disparut dans la nuit.
Bon, on va commencer directement avec le débat. Alors, c'est tout. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que toi, tu serais prête à vendre ton enfant ? Enfin, oui, voilà.
Moi, je dis non, je n'aurais pas vendu mon enfant. Parce que, je ne sais pas, quand même, c'est sa mère. Et même si on me propose de l'argent, je n'aurais pas vendu après... C'est le petit qui est ingrat parce qu'il se retourne contre ses parents.
Oui, c'est vrai, mais d'un côté, je trouve que ils ont bien fait parce que s'ils ont pensé à l'avenir de l'enfant, bah c'est pas pareil. Enfin, s'ils ont fait ça pour qu'il soit élevé dans une bonne famille, bah c'est déjà bien. Et puis lui, au moins, il est reconnaissant.
Oui, mais même, pas revoir son fils pendant 21 ans, moi je peux pas, moi.
Oui, c'est vrai, enfin, moi aussi, je sais pas si je l'aurais fait, mais ce que je veux dire, c'est que quand il est revenu, bah maintenant il va rester avec eux, il va pas les abandonner comme l'autre il a fait sans leur donner de nouvelles.
Oui, mais il a pas vécu son enfance avec ses parents, pour moi c'est pas normal.
Ouais, c'est vrai, mais je sais pas en fait, je sais pas, parce que je sais pas, d'un côté c'est bien, mais d'un côté je sais pas, je l'aurais pas fait. Je sais pas trop comment expliquer.
Comme ça, tu l'aurais pas fait.
Bah en fait, je l'aurais pas vendu parce que c'est mon enfant et normalement, bah quand t'as un enfant, bah tu l'aimes et tu le garderais pour tout, même pour de l'argent. Voilà.
Bah voilà.
Et vous, Yosra et Imen?
Bah moi je suis d'accord avec toi, c'est tout.
Pourquoi?
Bah parce que ça se fait pas.
Mais comment t'expliques ça?
Bah toi par exemple, si on t'aurait proposé de l'argent et tout tous les mois et que ton fils il vive bien, enfin tu l'aurais fait ou pas?
Bah non.
et toi Imen?
Bah moi aussi je suis d'accord avec Assez tout, je l'aurais pas fait. Parce que...
Et déjà moi, si parce je serais...
Que... Oui, vas-y. Ouais.
Bah parce que l'argent c'est pas... C'est pas plus important que l'enfant. Ça n'a pas déjà, la même valeur.
Ouais, mais déjà, moi, je serais à la place du petit. Moi, j'aurais pas aimé être loin de mes parents, déjà.
Moi non plus. Mmh.
Bah, peut-être qu'il était un peu d'accord avec moi et qu'il s'est dit que ses parents, ils voulaient son bien. Et voilà, il n'a pas vu le mauvais côté, en fait. Peut-être
et toi, si tu n'aurais pas grandi avec tes parents, tu serais bien?
Bah, je pense pas. Enfin, c'est vrai, je commence à être d'accord avec assez tout, mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs côtés, je sais pas trop. Mais... Bon, voilà. On est toutes d'accord, je pense. Hein.
C'est pas normal.
Bah oui, c'est pas
normal. D'être enfant et de pas vivre avec ses parents.
Oui, je sais, mais je sais pas, moi je dis ça, mais je l'aurais pas fait.
Pour de l'argent.
Juste que ça dépend du contexte. Voilà.
Ouais, parce mais que moi, personnellement, avenir ou pas avenir, je préfère.
Bah oui.
Après,
oui,
moi, j'essaierai de m'en sortir. Grâce aux paysans, en étant paysanne. Mais en tout cas, je voudrais pas être loin de mes parents, c'est tout.
Oui.
Voilà. Oui. Donc, assez tout, Assia, t'es d'accord avec assez tout?
Oui.
Voilà.
Bon, bah, ça clôture la fin de ce débat.
J'ai gagné.
Ah, c'est bon, hein. Et on va se quitter avec Christine and the Queens Saint-Claude.
J'ai gagné.
Ah, chute.
Mes absences, c'est du sentiment.